Radio Kapi. Ouverture ce lundi dans l'après-midi au Kenya du troisième round du processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs délégations sont déjà sur place depuis ce week-end. Et puis, publication du calendrier électoral pour les élections générales en 2023 ce week-end. En réaction pour le PPRD, c'est une distraction car il n'y a pas de consensus de toutes les parties. Mais pour l'UDPS, c'est une preuve de respect du délai constitutionnel. Enfin, nous recevons dans ce journal Madame Sarah Tamboué. Elle est coordinatrice de l'organisation Change Your World. Elle nous parlera de ses ententes du processus de Nairobi qui s'ouvre ce lundi. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Début ce lundi du troisième round du processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture des travaux se déroulera cet après-midi en présence du président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ainsi que de Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan et facilitateur de ce processus. Plusieurs délégations sont déjà dans la capitale kenyane depuis ce week-end. Les détails avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papimukeba.
47 groupes armés, savants membres de la société civile, parmi lesquels 40% des femmes, ainsi que les représentants des communautés du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Maniema, sont déjà à Nairobi. La délégation du gouvernement congolais est conduite par les ministres des Affaires étrangères. L'ouverture des travaux ce lundi connaîtra la participation du président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. C'est cette organisation régionale qui facilite ces processus. Les pourparlers vont se dérouler au moins pendant une semaine au Safari Park Hotel de Nairobi. Selon des sources de l'organisation, la facilitation souhaite qu'à la fin du processus de Nairobi, que tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC s'engagent à déposer les armes et de façon définitive. D'après la même source, ce processus, qui bénéficie d'un soutien opérationnel de la MONUSCO, vient compléter le processus de Luanda. Depuis Nairobi, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Alors, parmi les délégations présentes à Nairobi, il y a celle de la plateforme des femmes du Nord Kivu. Elle appelle tous les groupes armés présents à Nairobi et actifs dans l'est de la RDC à déposer les armes. La présidente de la plateforme des femmes du Nord Kivu, Justine Masika, a lancé cet appel ce dimanche à partir de Nairobi à la veille du lancement ce lundi de travaux de ce processus. Selon elle, l'activisme des groupes armés est à la base de la souffrance de la population de la région. On écoute Justine Masika au micro de Martial Papimukeba.
Nous les femmes, comme nous avons été cette fois-ci associées à ces pourparlers, et nous croyons vraiment qu'on va écouter la voix des femmes, puisqu'il y a même des femmes qui ont subi les affres de cette guerre, qui sont là, qui vont témoigner, et nous croyons vraiment qu'ils vont écouter la voix de la femme qui pleure de tout ce qu'elle traverse dans cette guerre. Il faut que ces groupes armés soient conscients qu'ils sont en train de maltraiter leurs semblables, leurs mamans, leurs sœurs. Puisque avoir la souffrance, la catastrophe humanitaire au Nord Kivu aujourd'hui, je crois que ces groupes armés ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de réclamer leurs droits, puisqu'ils sont en train de faire souffrir la population. Les conditions dans lesquelles les déplacés vivent, ce ne sont pas des conditions humaines. Et pour cela, j'appelle tous ceux qui ont pris les armes, qu'ils les déposent pour le bien-être de leurs semblables.
Autre nouvelle, dans l'ouest du pays, il n'y a pas de trafic entre la ville de Kinshasa et les secteurs de Bukangalonzo au Kwango et les territoires de Bagata au Kwilu. Des hommes armés qui opèrent dans le secteur Wamba ont érigé des barrières et bloquent les passages des véhicules. Depuis près de 6 jours, seuls quelques véhicules de commerçants ont pu difficilement passer sur la route qui relie ces entités. L'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mankoto, s'est dit préoccupé. Il sollicite l'intervention des autorités tant provinciales, nationales que militaires pour mettre fin à cette situation qui, selon lui, bloque les échanges commerciaux Irène Mboma nous en dit plus.
Selon l'administrateur du territoire de Bagata qui alerte, c'est au niveau de la limite entre la province de Kwilu et celle du Kwango, plus précisément nord-ouest du village Kibwadji, situé à près de 60 km du parc agro-industriel de Bukangalonzo, que des assaillants armés se sont érigés en coupeurs de route, empêchant ainsi la circulation de tous les véhicules et de tout autre engin. Joseph Mankoto explique.
Les assaillants ont implanté leur base pour empêcher tous les véhicules qui viennent de Kinshasa et de Kwango pour entrer dans le Kwilu, plus précisément dans le secteur Wamba pour déchargement. Le trafic ces derniers temps ne s'effectue pas.
L'autorité territoriale de Bagata plaide pour une implication des autorités militaires afin de sauvegarder les échanges commerciaux entre Kinshasa et son entité.
Bagata, c'est le grenier, c'est Bagata qui alimente aussi la grande partie la vie province de Kinshasa. Nous lançons les cris d'alarme à toutes les autorités, surtout les autorités militaires, pour s'impliquer, pour mettre hors d'état de nous ces assaillants.
Notez que plusieurs véhicules en provenance de Kinshasa n'ont pas pu décharger et ont fait demi-tour avec les marchandises, a indiqué Joseph Mankoto. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié depuis le samedi 26 novembre dernier le calendrier électoral 2022-2024. Parmi les activités phares de ce calendrier figurent entre autres la constitution du fichier électoral, l'opération de réception et de traitement des candidatures au scrutin direct, l'organisation des scrutins directs et indirects, l'élection des gouverneurs ainsi que celui des sénateurs. Paul Matendo pour les détails.
Parlant de la constitution du fichier électoral, ce calendrier prévoit l'identification et l'enrôlement des électeurs du 24 décembre 2022 au 17 mars 2023. Cette opération se fera progressivement dans les différentes provinces et aires opérationnelles en RDC et à l'étranger. La promulgation de la loi sur la répartition des sièges, elle, est prévue du 1er juin au 15 juin 2023. En ce qui concerne l'opération de réception et de traitement des candidatures au scrutin direct, quelques dates importantes à retenir. D'abord, la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin prochain. Du 26 juin 2023 au 15 juillet de la même année, cette période est réservée à l'ouverture de BRTC à la députation nationale. Ensuite, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et des conseillers communaux le 2 août 2023. La convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle est enfin en date du 1er septembre 2023. Au sujet de l'organisation des scrutins directs, retenez que la campagne électorale pour les candidats présidents de la République est prévue du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Deux jours après, interviendra l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux ainsi que des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, c'est la date pour la prestation du serment du président élu.
Réagissant alors à cette publication, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, membre de l'opposition, reste pessimiste quant à l'organisation des élections. Selon Ferdinand Kambéré, son secrétaire permanent adjoint qui s'est exprimé à Radio Capi ce week-end, ce calendrier publié par la CENI témoigne le manque de volonté du pouvoir en place d'organiser les scrutins, mais qui veut distraire simplement l'opinion. Il parle notamment du manque de consensus politique, du temps record prévu pour l'enrôlement ainsi que de la situation sécuritaire actuelle dans l'est du pays. Maître Ferdinand Kambéré a été joint par Grace Hamzati.
La première impression, c'est de celui du mépris, non seulement du peuple congolais, mais de la constitution et même de la démocratie dans notre pays. Parce que c'est depuis longtemps que l'opposition a réclamé qu'il y ait consensus pour crédibiliser ce processus électoral. Ils n'ont pas voulu du tout. Donc, c'est un calendrier publié par une CENI, non reconnu par l'opposition, et même lorsqu'ils veulent tromper peut-être les gens qui vont arriver à rôler 30 millions d'électeurs ou 50, mais par quel moyen ils vont le faire? Pendant un mois, ils vous disent qu'ils vont rôler par aire géographique, et il y a trois aires comme ça. Est-ce que nous aurons encore dans ces provinces-là le nombre d'électeurs qu'il y avait et comment on va les avoir? Parce que cette coïncidence aussi en même temps où nous voyons le gouvernement négocier un cessez-le-feu contre toute attente, il demande un déploiement des armées étrangères dans l'est de notre pays, est-ce comme ça qu'on va organiser réellement les élections? De qui se moque-t-on? Les populations se déplacent. Est-ce qu'ils ont encore la cartographie démographique de notre pays?
Ce calendrier électoral publié par la CENI est réaliste et témoigne la volonté du président de la République et du gouvernement d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est la réaction du député national Bintoutoumba Tchabola, élu de Katanda dans le Kassai Oriental, qui s'est confié à Radio Okapi ce week-end. Ces députés de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti au pouvoir, appellent le peuple congolais ainsi que les politiciens à se préparer pour aller au scrutin. Il a été aussi joint par Grace Hamzati.
C'est un calendrier électoral réaliste et réalisable. Cela confirme la volonté du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, qui tiennent à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, en disponibilisant tous les moyens. Le renouvellement du fichier électoral commence déjà au mois de décembre 2022. Nous appelons toute la population congolaise à se préparer à l'enrôlement qui commence bientôt. Les kits électoraux étant déjà disponibles, plus rien ne peut empêcher la CENI à tenir son calendrier, sauf en cas de force majeure. Les candidats à différents scrutins doivent aussi se préparer, car les élections c'est pour l'année prochaine, le 20 décembre 2023. Le peuple ira voter ses dirigeants. Nous sommes certains que les politiciens sceptiques, en mal de positionnement, qui rêvaient d'un quelconque glissement, puissent revoir leurs calculs. Même les élections communales et locales sont prises en compte dans ce calendrier.
De son côté, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC, invite la population congolaise à s'enrôler massivement en vue de s'approprier le processus démocratique et de se choisir librement ses propres dirigeants. Dans ses communiqués rendus publics le samedi 26 novembre, le président du MLC dit aussi apporter tout son soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, et à la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort en vue de défendre l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en dépit de toutes les difficultés. À l'instar du président de la République et commandant suprême des forces armées, je demande à l'ensemble de la population congolaise et plus particulièrement aux jeunes de s'enrôler massivement au sein de notre armée, ajoute ce communiqué dans lequel le leader du MLC exhorte également la population à éviter tout discours haineux et xénophobe. Autre nouvelle, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Cette loi est envoyée à la commission socioculturelle qui dispose de 7 jours pour soumettre son rapport à la plénière. Initiée par les députés nationaux Léon Mondolé et Baté Djoloko, cette loi vise à assurer une couverture santé universelle à toute personne vivant en RDC. Pour son auteur, avec la mise en œuvre de cette loi, le système sanitaire sera en mesure de mobiliser au moins 4,5 milliards de dollars américains chaque année afin d'assurer un accès à la santé de qualité à tout Congolais. Léon Mondolé est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une grande réforme que nous voulons impulser par la loi. Notre peuple aujourd'hui court un risque financier permanent qui ne le permet pas de bénéficier des services et des soins de santé de qualité. C'est pourquoi vous voyez, si vous circulez à travers les hôpitaux, il y a même des prisonniers de santé, des gens qui étaient hospitalisés déjà guéris, mais qui ne savent pas quitter l'hôpital parce qu'il est en problème de paiement des factures. Des gens qui meurent à la maison sans avoir bénéficié d'un soin. Alors, il n'y a qu'une fine partie de la population qui est capable de bénéficier des soins. Il s'est créé un fossé entre ceux qui ont des moyens et la grande partie de la population qui n'accède pas aux services et soins de santé de qualité. C'est pourquoi cette loi vient résoudre ce problème-là.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu menace de saisir le CECOP pour désactiver toutes les écoles publiques conventionnées qui ne respectent pas la gratuité de l'éducation de base. Le ministère provincial de l'éducation affirme avoir recours cette fois-ci au service de renseignement pour dénicher tous les récalcitrants pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Emmanuel Elamejiwa Kabedi pour plus de précisions.
La mise en garde est contenue dans un message adressé aux gestionnaires des écoles publiques conventionnées et non conventionnées du Sud Kivu. La ministre provinciale Geneviève Mizumbi dit constater avec regret que beaucoup de chefs d'établissement du primaire et du secondaire exigent illégalement des frais aux parents d'élèves. Elle dit avoir constaté l'inertie persistante des gestionnaires d'écoles dans l'accompagnement des mesures constitutionnelles régissant l'EPST. Ainsi, elle dit être dans l'obligation de solliciter le concours des services de renseignement de l'ANR pour dénicher tous les récalcitrants afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Enfin, la ministre Mizumbi signale que des écoles qui persistent dans les antivaleurs courent le risque d'être désactivées par le service de contrôle et paie des enseignants pour que leurs gestionnaires fassent le choix de rester dans le secteur public ou de basculer dans le secteur privé. Signalons qu'une dizaine de chefs d'établissement scolaire public de Bukavu avaient été suspendus pour non-respect de la gratuité de l'éducation de base, mais ces mesures ne sont jamais appliquées. Emmanuel Elamiji Wakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les islamistes radicaux Shebab ont attaqué dimanche un hôtel près du palais présidentiel à Mogadiscio, ont indiqué la police somalienne et des témoins qui ont fait état d'explosions et des coups de feu dans le centre-ville. Les forces de sécurité se sont engagées pour les éliminer, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Sadiq Doudiché, dans un communiqué. De son côté, Atmis, la nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine en Somalie, a écrit sur Twitter qu'elle condamnait et elle exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de Somalie.
L'invité.
Notre invitée dans cette édition du journal ce matin est la coordinatrice de l'organisation Change Your World, en français Change Ton Monde, Sarah Tamboué, qui participe au troisième round du processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC en qualité de membre de la société civile, s'exprime sur les attentes autour de ce processus. Sarah Tamboué s'entretient ici avec Martial Papimoukeba. Suivez.
Sarah Tamboué, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce troisième round du pourparlers de Nairobi qui débute ce lundi?
Comme vous le savez, le Nord Kivu, et c'est vraiment une zone où actuellement même on a affaire à des familles, à des enfants qui sont vraiment exposés à ces moments de déplacement tant qu'il n'y a pas la paix dans notre province. Donc pour moi, l'attente après ces rencontres, que ces dialogues ne soient pas un passe-temps, mais que ce soit vraiment quelque chose qui va permettre à ceux qui ont des engagements concrets et qui vont permettre à ceux qui ont vraiment les changements palpables, parce que c'est pas juste pour s'amuser ou soit pour l'image qu'on pourra être là, mais c'est vraiment des sacrifices qu'on est en train de prendre pour se rassurer qu'on n'a participé à quelque chose qui nous allons vraiment jouir de la paix dans les jours qui viennent, parce que c'est un processus. On a besoin de s'écouter mutuellement et savoir où est le gap et qu'est-ce qui doit être couvert des deux côtés pour qu'enfin le population oublie ce qui est en train de se passer et que les jours qui viendront, ça reste dans l'histoire tout ce qu'on a vécu comme guerre et conflit dans la zone du Nord Kivu.
Et cela passe par quoi exactement?
Je pense que ça passe par deux personnes. Les personnes doivent s'écouter d'abord, s'écouter mutuellement et après prendre des engagements. Et ces engagements doivent être équilibrés des deux côtés, parce que c'est pas une joie que les gens se mettent à rester dans une forêt et créer une guerre. C'est pas non plus une joie de voir les gens en train de souffrir. C'est pas aussi une joie de souffrir. Mais ce sont des conséquences liées à des multiples raisons qu'on est là pour écouter, s'écouter entre nous. Et il y a plusieurs profils. Il y a la société civile, il y a plusieurs participants. Et moi, en tant que société civile, le rôle qui est pour moi en tant aussi humanitaire, d'accompagner la population à des moments de crise humanitaire, mais aussi de porter vraiment la voix de ces personnes qui souffrent, avec qui je passe tout mon temps chaque jour et qui maintenant se trouvent dans plusieurs milliers de déplacés qui sont construits dans le Nord Kivu.
Certains groupes armés du Nord Kivu, de l'Ituri, mais également d'ici Tanganyika et du Maniema, ont été conviés aux discussions.
Voilà une occasion. On va s'écouter, on va parler et moi je pense que ça a un pas en avant. Parce que quand on est là face à face, ça permet de bien comprendre et peut-être de se dire là on va construire sur quelque chose de plus solide qu'avant.
Si il vous est demandé de vous adresser aux groupes armés qui vont participer à ces discussions, vous, étant que jeune et femme, qu'allez-vous dire?
Tout ce que je peux dire à ceux qui sont là présents, et s'il m'arrivait de leur poser une question, je dirais est-ce que la guerre pourrait-il arranger des choses? Est-ce que la souffrance et la perte que nous avons chaque jour de vies humaines pourrait-il arranger des choses, ou il est temps de revoir la revendication? Est-ce qu'elle était tellement important à perdre toutes ces vies que nous sommes en train de perdre, à déséquilibrer l'avenir ou soit la vie de la RDC sur tous les plans économiques, développement. Est-ce qu'il est important de continuer? Mon message serait, c'est un message que je passerai à tout le monde. Est-ce que les gens sont prêts à parler de la paix ou soit c'est un slogan? Parce que c'est des choses très différentes. Il faut être très préparé personnellement à construire la paix pour qu'on ait cette flexibilité de bien construire la paix que nous voulons construire.
Sarah Tamboui, merci.
Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Piro et Lameji et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci également à vous pour votre particulière attention.